bonne journée à l'écoute de VOA Afrique. Bonjour, au micro Idrissa Sedoudia pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Le chef de la police de Tucson dans l'Arizona, dans le sud-ouest des États-Unis, a remis sa démission après la mort d'un jeune d'origine latino-américaine de 27 ans, Carlos Ingram Lopez, plaqué au sol durant 12 minutes par deux policiers blancs et un policier noir en avril, dans des circonstances qui font l'objet d'une enquête. Dans le Colorado voisin, le gouverneur Jared Polis a quant à lui demandé la réouverture des investigations sur le décès d'Elijah McClain, un jeune américain africain-américain de 23 ans, en août 2019 à Aurora. Il a succombé à une crise cardiaque après son interpellation par des policiers qui lui avaient fait une clé au cou et lui avaient injecté de force un puissant calmant. Un policier de New York a été interpellé et inculpé jeudi pour avoir pratiqué dimanche une prise d'étranglement lors d'une arrestation. Une pratique rendue récemment illégale dans l'État de New York après l'émotion causée par la mort de George Floyd. Un mois exactement après la mort de George Floyd, qui a provoqué aux États-Unis un mouvement historique de protestation contre le racisme, la Chambre des représentants contrôlée par les démocrates a adopté hier un projet de profonde réforme de la police. Mais à cause de divergences profondes sur certains de ses aspects, son avenir reste incertain au Sénat sous contrôle républicain. Le président américain Donald Trump a accusé hier Hawk Newsom, l'un des meneurs du mouvement Black Lives Matter, d'avoir appelé à l'insurrection lors d'un entretien à la chaîne d'information Fox News. C'est de la trahison, de la sédition, de l'insurrection, a tuté le président américain. Depuis le début des manifestations, M. Trump cherche à projeter une image de fermeté face au mouvement, se disant garant de la loi et de l'ordre. Après un long plateau, la pandémie de COVID-19 continue de gagner en ampleur dans une immense partie des États-Unis, dans le sud et l'ouest, qui se croyaient jusqu'ici épargnés, allant jusqu'à pousser le Grand Texas à geler sa réouverture emblématique. Elle s'accroît également en Amérique latine, notamment au Mexique et au Brésil, où les bilans des décès quotidiens continuent de grimper. En Europe, la situation est loin d'être aussi grave, mais des villes et quartiers sont de nouveau confinés, face à l'apparition de foyers, notamment dans des entreprises. Au Kenya, trois personnes ont été abattues par la police hier dans la ville de Lesos, dans l'ouest du pays, lors d'affrontements avec des conducteurs de mototaxis. Ces derniers, en colère, protestaient contre l'arrestation d'un des leurs pour non-respect des règles anti-COVID-19, selon l'inspection générale de la police. La République démocratique du Congo, 6411 cas de coronavirus, dont 142 décès, s'est offert hier un bref répit sur le front sanitaire en proclamant la fin de sa 10e épidémie d'Ebola, qui lui permet de se concentrer sur les autres défis à relever. Nouveau foyer d'Ebola en Équateur, coronavirus ou encore rougeole. En Côte d'Ivoire, rues transformées en torrents, maisons inondées, des pluies diluviennes ont frappé hier Abidjan, la capitale économique, faisant 3 morts et causant d'importants dégâts. La semaine dernière, 16 autres personnes avaient été tuées au cours d'un glissement de terrain dans un quartier déshérité, à la suite aussi de pluies torrentielles. En Irak, 13 combattants d'une faction irakienne pro-iranienne ont été arrêtés dans la nuit de jeudi à vendredi par l'antiterrorisme pour des tirs de roquettes contre des intérêts américains, une première alors que ce type d'attaque n'a pas cessé depuis 8 mois, ont indiqué des responsables à l'AFP. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, Washington DC. La suite de nos informations, République démocratique du Congo, les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni mettent en garde contre un projet de réforme judiciaire qui nourrit des tensions au sein de la coalition au pouvoir. Le point avec Eddie Isango.
Les ambassadeurs américains, canadiens et du Royaume-Uni à Kinshasa préviennent dans un communiqué que les 3 projets de loi sur la réforme du statut des magistrats en préparation à l'Assemblée nationale risquent d'amoindrir l'indépendance de l'appareil judiciaire. Les sous-secrétaires d'État américains pour l'Afrique, Tibor Nagy, dans un tweet, a dit se faire l'écho des ambassadeurs. Il a fait part de ses inquiétudes concernant toute menace à l'état de droit, à la responsabilité et à la bonne gouvernance en RDC. Des manifestants, la plupart des l'UDPS, parti du président Félix Tshisekedi, descendent dans les rues de Kinshasa et d'autres villes depuis les débuts de la semaine pour dénoncer les 3 projets de loi portés par des députés proches de l'ancien président Joseph Kabila, qui a gardé la majorité au Parlement. Les manifestants ont pillé et mis le feu à des résidences appartenant à des députés du Front commun pour le Congo. Le président Tshisekedi a condamné les troubles mais a assuré que la liberté de manifester est garantie par la Constitution. Le PPRD de Joseph Kabila a lui menacé de rompre avec les caches de Tshisekedi si les partisans de ces derniers ne veulent plus de la coalition.
La Côte d'Ivoire a annoncé hier la réouverture à partir du 1er juillet de ses frontières aériennes et donc la reprise des vols internationaux suspendus depuis 3 mois à cause de l'épidémie de coronavirus. Précision d'Ekia Badou.
Les vols intérieurs reprendront dès aujourd'hui, le 26 juin. Les frontières terrestres et maritimes restent cependant fermées au moins jusqu'au 15 juillet, a déclaré le ministre de la Santé, Eugène Akaoulé, lors d'un point presse. Selon le ministre, l'état d'urgence et le bouclage de la région d'Abidjan restent également en vigueur au moins jusqu'au 15 juillet. C'est là où sont concentrés 96% des quelques 8000 cas de coronavirus, dont 58 morts dans le pays. Les voyageurs arrivant en Côte d'Ivoire feront l'objet d'un contrôle à l'arrivée et d'un suivi pendant leur séjour grâce à un système de géolocalisation, a assuré le ministre. Poids lourd économique de l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire est l'un des premiers pays africains à annoncer la reprise de ses vols internationaux.
Au Pakistan, le premier ministre Imran Khan suscite la controverse pour avoir qualifié de martyr l'ancien chef d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden. Le point avec Abdulrahman Dia.
Les Américains sont venus à Abbottabad et ont tué Osama Ben Laden. Il est mort en martyr, a déclaré le premier ministre pakistanais Imran Khan lors d'un discours devant l'Assemblée nationale où il a mentionné les relations compliquées entre Islamabad et Washington après le raid américain. Après cela, le monde entier nous a insultés. Notre allié tue quelqu'un dans notre pays sans même nous en informer, a-t-il poursuivi, qualifiant ces faits d'humiliation pour de nombreux Pakistanais. Opposants et défenseurs des droits de l'homme ont immédiatement fait part de leur indignation. Imran Khan a truqué l'histoire en déclarant aujourd'hui qu'Osama Ben Laden est un martyr, a réagi Khawaja Asif, le ministre des Affaires étrangères du précédent gouvernement, devant le Parlement. Les musulmans du monde entier se battent contre la discrimination qu'ils subissent en raison du terrorisme et notre premier ministre aggrave la situation en qualifiant Osama Ben Laden de martyr de l'islam, a tweeté Mina Gabina, une militante des droits humains. Pendant des années, le Pakistan a officiellement nié savoir que le fondateur d'Al-Qaïda se cachait sur son territoire jusqu'à ce qu'il soit abattu lors d'un raid des forces spéciales américaines en 2011.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Le Madagascar va lancer Gassicar, une nouvelle marque de voitures et de motos, en collaboration avec des entreprises chinoises et allemandes dont les noms n'ont pas été révélés. Une usine de montage sera construite dans le pays. Les véhicules produits seront destinés au marché national et à l'exportation en Afrique et dans le monde. Les premiers véhicules seront commercialisés d'ici 3 ans. Gassicar sera la 2e marque de véhicules fabriquée à Madagascar après Karenji. Le Soudan avertit que des millions de personnes seront confrontées à un grand risque si l'Éthiopie procède au remplissage unilatéral du réservoir du mégabarrage qu'elle construit sur le Nil Bleu. Le Soudan a envoyé une lettre au Conseil de sécurité de l'ONU l'appelant à empêcher toutes les parties de prendre des mesures unilatérales, y compris le remplissage du réservoir, avant un accord entre les trois parties. L'Égypte avait fait de même la semaine dernière. Pour terminer, l'Afrique du Sud devrait connaître une récession de 7,2% cette année à cause du coronavirus. C'est la pire contraction en près de 90 ans, a souligné le ministre sud-africain des Finances, Tito Mboweni. L'économie sud-africaine est retombée dans la récession. En 2019, son PIB n'a augmenté que de 0,2%, soit sa plus faible progression depuis 2008.
À présent, les sports avec Yakuba Ouédraogo.
Bonjour à tous. La FIFA a désigné l'Australie et la Nouvelle-Zélande pour organiser de concert le Mondial 2023 féminin, dont le format passera de 24 à 32 équipes. Le dossier présenté par ces deux pays a été préféré à celui de la Colombie, dernière autre candidature encore en lice après les retraits récents du Brésil et du Japon. Ce 9e mondial féminin sera disputé en juillet-août 2023 dans 7 villes australiennes et 5 de Nouvelle-Zélande, avec une finale prévue à Sydney. C'est la première fois qu'une Coupe du monde féminine est organisée par deux pays appartenant qui plus est à deux confédérations distinctes, l'Australie étant rattachée à la Confédération asiatique de football depuis 2006 et la Nouvelle-Zélande à la Confédération d'Océanie. La sélection australienne, 7e au classement FIFA, a atteint 3 fois les quarts de finale du tournoi mondial en 2007, 2011 et 2015. La Nouvelle-Zélande occupe une plus modeste 23e place mondiale. L'instance mondiale du football a aussi débloqué un fonds d'aide aux fédérations de 1,5 milliard de dollars sous forme de subventions et de prêts pour faire face aux conséquences du coronavirus. Chacune des 211 fédérations membres recevra 1 million de dollars et une aide supplémentaire de 500 000 dollars pour venir en aide au football féminin. Une autre aide sera disponible sous forme de prêts sans intérêt qui pourront atteindre jusqu'à 35% des revenus de chaque fédération. Le montant minimum de chaque prêt sera de 500 000 dollars et le maximum de 5 millions de dollars. De plus, chaque confédération va recevoir un prêt de 4 millions de dollars. Nous exercerons un contrôle strict de l'utilisation des fonds avec des audits et il y aura des conditions de remboursement très claires, a déclaré Gianni Infantino, président de la FIFA. Ici, en basketball, Vince Carter, l'homme volant de la NBA dont il fut 8 fois All-Star, a officialisé sa retraite sportive à l'âge de 43 ans. Après 22 saisons dans l'élite, j'en ai officiellement terminé avec le basketball professionnel, a annoncé Carter. Il a joué son dernier match avec les Atlanta Hawks le 11 mars, le même soir où la NBA s'est interrompue après l'annonce du premier cas positif dans ses rangs. 5e choix de la draft 1998 par Golden State et échangé avec les Toronto Raptors, où il a conquis le titre de meilleur rookie de la NBA. Vince Carter avait récolté le surnom d'Air Canada au vu de ses acrobaties aériennes lors du concours de dunk en 2000, passé par New Jersey Knicks, Orlando, Phoenix, Dallas, Memphis, les Sacramento Kings et enfin Atlanta. Il n'a jamais remporté le titre après ses 1541 matchs en saison régulière.
Écoutez VOA Afrique désormais, partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 474 de Canal Plus dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 474 de Canal+.
C'est Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Cameroun, les autorités affirment que la fermeture temporaire de la plupart des restaurants et du commerce frontalier a fait chuter jusqu'à 70% les prix des denrées alimentaires. Les commerçants souffrent d'une perte de revenus, mais ces bas prix ont aidé les populations les plus démunies à faire face aux perturbations économiques. Reportage à Yaoundé de Moki Edwin Kinzeka, repris ici par Claire Morin-Gibourg.
La pandémie de Covid-19 a contraint à la fermeture les restaurants de Yaoundé. Pour vendre leur stock de vivres, les grossistes ont créé une nouvelle façon de faire des affaires. Les camions qui livraient auparavant de grandes quantités de nourriture aux restaurants et hôtels de la ville servent maintenant à vendre des fruits, des légumes et du poulet au grand public. Les distributeurs de produits alimentaires comme Christophe Nanzé disent que la pandémie a détruit leur commerce. Ses clients, les acheteurs en gros, se font rares à cause de la fermeture des restaurants, de l'interdiction des grands rassemblements et du commerce frontalier.
Si c'était pas le problème de Corona, c'est que les Nigériens sont flop ici au pays pour prendre. La qualité, si que tu vois là, quand on dit que c'est moins cher, c'est que c'est au moins 10 000. Quand ça baisse trop, c'est à 7 500. Bon, voilà ça qui est pas, je suis obligé de vendre à 2 500. Il y a les autres qui veulent prendre à 1 500, il y a les autres qui veulent prendre à 2 000. Bon, je suis obligé de liquider. Comme c'est d'un mieux au champ, on est obligé de récolter, on peut pas garder.
Dans les quartiers pauvres où les journaliers et les travailleurs licenciés doivent subvenir à leurs besoins, la nourriture bon marché est une bénédiction. Amina Awa est une mère célibataire sans emploi, âgée de 39 ans. C'est la première fois de sa vie qu'elle peut se permettre d'acheter par semaine plusieurs repas avec de la viande pour ses enfants.
C'est très bien. Le Covid va très bien. Mais la maladie n'est pas bien. Ce qui est bien, c'est que comme on a fermé les frontières, on peut consommer camerounais. Et j'apprécie.
Par contre, les syndicats d'agriculteurs appellent à l'aide le gouvernement. Pour Joseph Thion, du syndicat des éleveurs de volailles, la baisse des prix des denrées alimentaires empêche les membres de son syndicat de rembourser leurs prêts. Les agriculteurs sont aussi découragés de produire et vendre à si bas prix si aucune aide gouvernementale n'arrive.
La crise sanitaire actuelle est un appel divin à repenser nos économies et à nous tourner davantage vers l'intérieur. Et il faut donc que tous ceux qui ne parviennent pas à rembourser leur crédit viennent à nous. Le système bancaire lui-même doit comprendre qu'il doit se mettre à disposition de ses clients qui sont en difficulté pour qu'ensemble on trouve la solution idoine qui arrange tout le monde.
Le ministre des Finances du Cameroun, Louis-Paul Motadze, a déclaré que le gouvernement prépare un plan pour aider les agriculteurs. Le gouvernement camerounais prévoit de leur accorder des allègements fiscaux et des subventions pour la production.
Pour bien comprendre l'effort que je dis gigantesque du chef de l'État en faveur des entreprises privées, il faut placer cet effort à l'aune de la situation actuelle que nous vivons. Et les premières projections que nous avons faites laissent comprendre que nous aurons perdu en termes de recettes à cause de la crise à peu près 800 milliards de francs CFA.
Et selon le ministre, le gouvernement s'est engagé à empêcher toute pénurie alimentaire dans le pays.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Le premier essai en Afrique d'un vaccin contre le Covid-19 a débuté hier à Soweto, en Afrique du Sud. Il a été développé, ce vaccin, par l'université Oxford et a déjà été testé sur 4000 personnes en Grande-Bretagne. C'est l'un des 6 vaccins les plus avancés dans les différentes étapes de test. L'Afrique du Sud est le pays le plus touché du continent, avec quelque 112 000 infections et 2200 morts. Reportage de Valérie Hirsch, une de nos correspondantes à Johannesburg.
50 volontaires ont été vaccinés contre le virus du Covid à Soweto. Pas de risque que ces personnes soient infectées. C'est un vaccin inactivé qui devrait permettre de développer des anticorps et de ne pas tomber malade. Cet homme est très content de participer à ce premier essai en Afrique.
I feel a little bit scared, but I wanna know.
J'ai un peu peur, mais je veux savoir ce qui se passe avec ce vaccin.
Après la piqûre, une infirmière lui explique de contacter l'équipe en cas d'effet secondaire. Au total, 2000 Sud-Africains vont participer à cet essai, y compris 50 séropositifs dans une étude séparée. Selon des données préliminaires publiées par la province du Cap, les personnes vivant avec le sida auraient 2 à 3 fois plus de risques de mourir du Covid. Si les tests sont concluants, il faudra plus d'un an pour développer ce vaccin qui permettra de protéger les personnes à risque et de mettre fin à l'épidémie. C'est en tout cas ce qu'espère le virologue Shabir Madi de l'université Wits de Johannesburg, qui dirige l'essai en Afrique du Sud.
Quand 60 à 70% de la population a développé une sorte d'immunité contre le virus, si une personne est infectée, elle ne pourra contaminer qu'une seule autre personne.
La variole a ainsi été éradiquée en 1980 suite à une campagne internationale de vaccination menée par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Dans les mois à venir, le vaccin contre le virus du Covid pourrait être testé sur plus de 40 000 personnes aux États-Unis, en Grande-Bretagne, au Brésil et en Afrique du Sud. Le professeur Madi explique pourquoi c'est important de le faire en Afrique.
Nous avons nos propres circonstances en Afrique qui sont différentes de la Grande-Bretagne, par exemple. Donc, c'est important de voir si le vaccin marche dans le contexte local. Ces preuves scientifiques seront aussi utilisées par l'Organisation mondiale de la santé dans ses recommandations sur l'utilisation de ce vaccin, en particulier dans les pays en développement. C'est donc essentiel d'avoir des informations souvent venant du continent africain si on veut que les Africains bénéficient du vaccin contre le Covid dans un futur proche. In the near future.
Pourtant, l'OMS avait déclaré que l'Afrique ne devait pas être un terrain d'expérimentation après la polémique suscitée par 2 professeurs français qui avaient déclaré en avril vouloir tester un vaccin sur le continent. Mais pour la spécialiste sud-africaine du sida, Hélène Ries, l'Afrique doit au contraire participer au développement des vaccins, car sinon les pays riches vont les donner en priorité à leurs propres patients.
Le ministre sud-africain de la Santé, Zweli Mkhize, a déjà engagé une discussion au nom de l'Union africaine sur l'accès de l'Afrique au vaccin et il soutient totalement la participation de l'Afrique du Sud à cet essai.
Le vaccin pourrait être prêt en septembre 2021. Valérie Hirsch à Johannesburg pour VOA Afrique.
5 femmes métisses nées dans les territoires alors sous domination coloniale belge, ont assigné l'État belge à en justice pour crimes contre l'humanité. Au moment des indépendances, des milliers d'enfants métis ont été rapatriés de force du Congo et du Rwanda-Urundi vers la Belgique. Pour comprendre cette situation, Eric Manirakiza a joint Luc Van Damme, lui-même séparé de sa mère rwandaise.
Donc voilà, donc suite à cet événement d'accueil en Belgique, eh bien nous avons été recueillis dans différentes familles et personnellement, donc nous étions 5 enfants, 20 dames, nous avons été dispersés comme ça dans différentes familles, aussi bien néerlandophones que francophones. Personnellement, j'ai été accueilli par une famille quand même remarquable qui m'a éduqué, qui m'a donc permis de faire ce que je suis actuellement. Mes frères et sœurs ont été adoptés dans une autre communauté, la communauté néerlandophone. On s'est retrouvés des années plus tard, mais c'était quand même une grande blessure que d'avoir été écartelé, déraciné de l'Afrique. On avait quand même la majorité une dizaine d'années, petite séparation surtout maternelle, bien entendu aussi paternelle. Et voilà, donc personnellement, donc j'ai grandi en Belgique. Et ce n'est que quand moi-même j'ai eu des enfants, je me suis rendu compte vraiment de la vie que des mamans, ma maman avait eu vraiment. Et pour avoir rencontré quelques mamans, bon, j'ai encore connaissance d'une qui est actuellement en France. Pour elle, c'était un crime contre l'humanité, ce qui s'est passé pour elle. Donc c'est abominable, c'est atroce. Et il y a eu donc un mouvement qui s'est créé il y a quelques années. Et suite à ce mouvement, la Belgique a reconnu officiellement, solennellement, hein, ces souffrances qui avaient été faites auprès des mamans aussi. Mais maintenant, vous me posez aussi la question, quand est-ce que j'ai pris conscience et comment est-ce que j'ai vécu ça? Il est vrai que ça a été une très grande souffrance d'être surtout sous le regard des enfants, sous le regard des adultes, qui à cette époque-là, à l'époque de la fin de la colonisation, eh bien, nous étions considérés comme des petits animaux. Donc, vous imaginez bien toutes les insultes que l'on a subies à l'école ou dans la rue.
Oui, il y a eu une plainte déposée par 5 des métis. Vous, individuellement, est-ce que ça vous soulage?
À mon avis, s'il y a donc cet acte vis-à-vis de l'État belge, c'est qu'il y a encore vraiment des choses à modifier, à bouger. Hein, et que, bon, on se connaît bien la sensibilité actuelle. Du respect de la personne humaine, quelle que soit la race, nous avons tous la même couleur de sang. Et on doit être considéré, on doit être respecté. Et la blessure, elle est fragile. C'est le regard des autres qui éveille de nouveau cette fragilité. Lorsque vous allez dans un aéroport et que vous êtes, vous, individuellement, en tant que métis, pris à l'écart parce que on vous considère comme différent des autres, mais la blessure s'éveille, voyez-vous, et c'est quelque chose que l'on vit. C'est vrai que la blessure est là pour les personnes, hommes ou femmes, qui font un effort de s'intégrer. Donc c'est un combat porteur qui est présent. Et voilà, c'est une lutte quotidienne.
Luc Van Damme, métis de Belgique.
VOA Afrique, en direct de Washington.
La rencontre du 17 juin entre les diplomates américains et chinois a été si discrète qu'il n'y a pas eu de photos publiées à ce sujet. Des sources diplomatiques affirment que c'est la Chine qui avait demandé cette rencontre. Elle est survenue à un moment de forte tension entre Washington et Pékin sur de nombreuses questions. État des lieux de Steve Reddish, repris ici par Lionel Gahima.
Kung Flu.
Le mécontentement des États-Unis vis-à-vis de la Chine ne s'arrête pas seulement à sa gestion de l'épidémie de coronavirus. Hong Kong est une autre pierre d'achoppement, le président Donald Trump.
La décision du gouvernement chinois contre Hong Kong est la dernière d'une série de mesures qui affaiblit le statut fier et de longue date de la ville.
Et le président Trump a menacé de dissocier les relations économiques entre les deux pays, alors que les négociations sur le nouvel accord commercial sont au point mort. La rencontre à Hawaï le 17 juin entre le secrétaire d'État américain Mike Pompeo et son homologue chinois Yang Jiechi n'a pas permis de sortir de l'impasse. La Chine a qualifié la rencontre de constructive. Les États-Unis disent attendre de voir une réduction de ce que Washington appelle le comportement agressif de Pékin. Deux jours plus tard, Mike Pompeo tire la sonnette d'alarme concernant la Chine au sommet de Copenhague sur la démocratie.
Elle pousse la désinformation et les cybercampagnes malveillantes pour saper nos gouvernements et creuser un fossé entre les États-Unis et l'Europe en accablant les pays en développement avec les dettes et la dépendance. Nous devons lever les œillères d'or et voir que le défi chinois n'est pas seulement à nos portes, c'est dans chaque capitale, dans chaque arrondissement, dans chaque province. Chaque investissement d'une entreprise publique chinoise doit être considéré avec suspicion.
Pékin accuse Pompeo de vouloir creuser un fossé entre la Chine et les autres nations. Zhao Lijiang, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.
Pompeo a de nouveau porté des accusations sans fondement contre la Chine dans son discours vidéo. Il tente de semer la discorde entre la Chine et d'autres pays. La Chine s'y oppose fermement. Les remarques de ce politicien américain sur la Chine sont contraires aux faits de base. Cela ne contribue à rien, mais expose davantage la mentalité de guerre froide et des préjugés profondément ancrés.
De la mer de Chine méridionale à la frontière avec l'Inde, la Chine montre ses muscles lançant un sérieux défi à Washington pour le moment. La Chine et l'Inde ont accepté une escalade après un affrontement à leur frontière commune la semaine dernière qui a fait 20 morts dans les rangs des soldats indiens.
C'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sedouia et de Michel Joseph.